Mes chers amis, bonsoir. Je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous, eu égard au nombre de fois où je suis venu. Et cette fois-ci, je suis venu remplacer, presque officialisé, celui qui devait venir, mais n'a pas pu, pour X raisons, notamment familiales. Et je viens comme un sacre animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Ça, ça n'a pas changé. En guise de préliminaire, je réagis sur un ou deux mots prononcés par Paul, et puis il y a un préambule, on rentrera dans le cœur du sujet, ça peut être une heure ou un peu moins, parce que ce n'est pas pour entendre ce que dit le bonhomme qui est intéressant, je ne suis pas venu de Paris asséner des vérités, c'est aussi introduire un débat et essayer d'avoir un échange serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant, je le dis toujours, exigeant c'est toujours et d'abord vis-à-vis de soi. De voir en soi quels soient les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à la solidarité, les manquements à l'engagement dans la cité. Bien, je ne vois pas en quoi ça pourrait être étonnant pour un catholique qu'un citoyen laïque, doublement laïque, puisse avoir telle ou telle activité. Alors, doublement laïque, du substantif, au sens où je ne suis pas bien clair. J'ajoute parfois en plaisantant, je n'ai pas reçu la tonsure. Je l'ai reçue naturellement et par coquetterie de la canousse, et actuellement. Et je suis aussi laïque de la justice, au sens où je suis pour la laïcité, donc je n'ai même pas envie de lui affubler une quelconque étiquette, ouverte, positive, bienveillante, tolérante, que sais-je encore, ce qui sous-entend qu'il y a ce que les grammairiens appellent des antonymes, c'est-à-dire fermée, malveillante, exclusive et intolérante, etc. Bon. Le sujet ce soir n'est pas la laïcité, on n'en parlera pas, et je ne m'y appesantis pas, sauf si vous m'y invitiez tout à l'heure lors du débat. Je suis laïque comme un esthète l'est pour l'esthétique, ou le républicain l'est pour la république, ou le démocrate l'est pour la démocratie. Théologien, j'aime beaucoup revenir, non pas à l'étymologie du mot, son origine, tenir un discours sur le divin, étudier tout ce qui a trait à la religion, et notamment monothéiste, j'aime cette autre définition qui est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Pour la simple raison que saint Anselme disait « Fides esquare ainsi que lectu », la foi toujours en quête d'intelligence. Si la foi se conjugue avec la cristallisation des esprits, cette idiotie, la stupidité, il y a un problème. Et donc, le travail du théologien, c'est essayer de comprendre, entre autres. Voilà. J'ai beaucoup d'amitié pour Paul, donc je ne vais pas encore le contredire, mais je ne suis pas sûr d'être considéré comme un cadre en milieu musulman. C'est simplement un citoyen qui parle à ses concitoyens, quels qu'ils soient, à ce sujet. Je le dis en homme libre, ça peut parfois déplaire, ça peut m'occasionner quelques inimitiés, parfois ça suscite un assentiment, ben c'est ça la vie. Hein. Bon, j'ai fini le préambule, je rentre dans les préliminaires comme ça d'une manière générale. Il se trouve que notre nation a connu une annus horribilis, comme on dit, et notamment l'année 2015. Nous avons tous été affligés, l'épouvante était là, et après le temps de sidération, de l'épouvante, de l'affliction, le temps de la condamnation unanime, qui ne souffrait aucune réserve, le temps de l'analyse doit venir aussi. Et contrairement à ce que dit notre cher Premier ministre, essayer de comprendre, ne pas admettre, c'est pas justifier, essayer d'expliquer, ce n'est pas excuser. Nous essayons de comprendre. Parce qu'il y a un temps pour tout. Là, je parle comme l'Ecclésiaste, qui Il nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les activités sous le ciel, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour pleurer et un temps pour sourire, ou pour rire, un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Alors, ici, c'est la litanie, il y a 15 versets. Donc, on ne va pas passer la soirée à passer en revue la sagesse de l'Ecclésiaste. Et donc, pour sortir de ce que d'aucuns appellent le panurgisme émotionnel, nous avons besoin aussi de distanciation, de froideur d'esprit, d'analyse, d'une situation vraiment complexe. Et quand on dit complexe, c'est deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser, c'est complexe, on n'en parle pas, soit il faut y aller. En quoi est-elle complexe, cette situation? Et à mon avis, ce terrorisme abject qui s'abat au nom de la tradition religieuse islamique et qui est l'Asie, on ne peut pas en guérir uniquement en disant « Ah, ça n'a rien à voir avec l'islam, halte à l'amalgame !» et cessant de stigmatiser les musulmans. Je peux le comprendre que certains de mes concitoyens coreligionnaires réagissent comme ça, et ça ne suffit pas. Hélas, ce n'est pas de la haine de soi, ce n'est pas de l'autoflagellation, ce n'est pas... Mais il faut une prise de conscience véritable. Chaque jour que Dieu fait, on a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde où une monstruosité dénommée Daesh sévit, et on ne peut pas décemment, sérieusement dire « Ah, vous savez, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam c'est l'amour, la bonté, la miséricorde. » Bien mes amis, vous savez, et ça je le crois, mon père était recteur de la Grande Mosquée de Paris, et il m'a enseigné que dans sa version standard, la tradition religieuse islamique continuatrice, dans un prolongement naturel des préceptes nobles et des commandements moraux que recèle à profusion aussi bien la Torah que l'Évangile, il y a de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui, de la tendresse, de l'accueil, de la générosité. Mais il y a aussi à côté de cela, hélas, un corpus de polymologie virulente. Alors, qu'est-ce que c'est que la polymologie? C'est la science de la guerre. Il y a un genre littéraire qu'on appelle le livre des expéditions. Il y a des choses de cet ordre dans lesquelles se nourrissent malheureusement les fonds, ce que nous appelons les fondamentalistes, les radicaux, les extrémistes, etc. Et si on ne fait pas le ménage, si on ne le dit pas, eh bien, si on ne trouve pas le bon diagnostic, eh bien, les difficultés demeureront. Je ne sais pas pour l'enregistrement, il vaut mieux attendre qu'il y ait la sono, mais... Bien. Donc, j'étais en train de dire que pour trouver la bonne médication, le bon remède, il faut faire aussi de bons diagnostics. Et donc, je reviens à ma phrase de tout à l'heure, la situation est complexe, compliquée. Et qui dit une situation complexe dit qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs, des raisons extrinsèques et des raisons intrinsèques qui aggravent les situations, et plusieurs niveaux de lecture. En ce qui concerne la tragédie que nous avons connue l'année dernière, et pas uniquement l'année dernière, il y a une stratification de lecture et d'analyse, et ces lectures vont depuis la lecture sociale, sociologisante, la lecture politique, l'analyse géostratégique, l'approche psychanalytique, les millénaristes, une autre nihiliste, une autre apocalyptique, une analyse théologique, et on peut continuer comme ça. Mais au moins, toutes ces approches-là doivent être prises en considération. Aucune, à elle seule, ne peut étudier le sujet, mais chacune a sa pertinence propre. Donc c'est pour ça qu'il faudrait avoir une vision panoptique, panoramique, globale des choses. Certains, s'il y a tel ou tel terme que j'utilise, il vaut mieux que vous me mettiez devant mes contradictions, je ne suis pas venu faire le pédant. Et d'autres disent qu'il faut avoir une lecture fractale de tout ça, avoir une vision à la fois globale, mais de chacune de ce que je viens de dire. Et j'avais ajouté qu'il y a des raisons intrinsèques au monde islamique, au contexte islamique, à X, donc au pluriel. Il y a aussi des facteurs extérieurs, exogènes, des raisons extrinsèques. Pour les raisons extérieures, je ne m'appesantirai pas, je les dirai simplement en quelques mots. En un siècle et une décade, par exemple, un siècle et une décennie, on a eu droit, et notamment en proformant, tour à tour, à Marc Mahon, Laurence Daradi, Saïd Fico, Balfour, Lausanne, Sèvres, Berlin, les résolutions de l'ONU portant numéro 181, 190, 149, 181, 197, 242, 336, 425, 429, et elles dorment dans les tiroirs de l'organisation, et puis ça se poursuit par Suez, Apocranie, Fallouja, je sais encore, et les résolutions de l'ONU à quatre chiffres qui ont été imposées par un déluge de feu et de fer, et parfois en dehors de toute l'égalité internationale, il y a la désolation et le désarroi qui ont été infligés à des populations entières. Et parmi les raisons intrinsèques, il y a malheureusement, après, j'ai eu l'occasion de le dire ici, un apogée civilisationnel qui, pour certains, aurait culminé avec Soléman le Magnifique. On l'appelle le Magnifique ici, en Europe. Ailleurs, il s'appelait le Bâtisseur. Et parfois, on ajoutait le Législateur. Ça sous-entend que sous Soléman le Magnifique, le droit était de type séculier. Il y avait une production du droit qui n'était pas nécessairement conforme à la salience, mot qui a été restreint dans son sens à partir de la fin du 19e siècle. C'est que la production du droit peut être aussi une émanation rationnelle des hommes et elle s'applique aux hommes. Et qu'il n'y a aucune raison de vouloir exclusivement et uniquement l'arrimer à la révélation. Et en tout, et pour tout. Et combien même ça devait être le cas, ce n'est pas possible. Ceux qui veulent nous faire croire que eux ont pu pénétrer le désir politique de Dieu et qu'ils viennent nous l'imposer ici-bas, se trompent. En tout cas, de mon point de vue. Bon, donc, après cet apogée civilisationnel, il va y avoir une terrible régression. D'abord, une stagnation, même du point de vue militaire. 5 ans après la mort de Soléman le Magnifique, son règne, je le rappelle, 1520-1566, bien l'invincible de l'armada va infliger une terrible défaite à la flotte ottomane. Et à ce moment-là, ou juste avant, à la bataille de l'Éperance, on parlait déjà avant de la thalassocratie ottomane, c'est-à-dire le pouvoir sur les mers, et notamment en Méditerranée, de la flotte ottomane, dans laquelle on avait mis ça. Et puis, il y a des facteurs géographiques, politiques, militaires, culturels, théologiques, économiques, et tout ça a convergé, c'est un faisceau convergent qui a contribué à la stagnation, à la régression, à la colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et à une profonde léthargie. Et un réveil post-colonial qui est extrêmement douloureux et raté. On pourra revenir sur tout ça tout à l'heure. Et surtout,
à la séquence moment Descartes, moment Freud, totalement ratée. J'ai la faiblesse de croire que ce qu'on appelle l'Aufklärung, les Lumières, ne sont pas venues chez Jésus. Elles doivent quelque chose, chez les latinisés délibérément, à Alcindus, à Rajet, à Paradus, à Gustel, à Venpas, à Véroès, et qu'il y avait une circulation du savoir. Les auteurs latins parlent de la translation studiorum, une circulation, translation des études, et une ouverture sur la sagesse. Et il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique. Là aussi, j'y reviendrai. Et il se trouve aussi, il faut le reconnaître, cette séquence historique, moment Descartes, moment Freud, a été totalement ratée, et ce qu'il y a entre les deux, bien entendu. Là aussi, sans faire étalage d'une vaine érudition, eh bien, les John Locke, les Pierre Bayle, les Benjamin Constant, les Cesare Beccaria, par exemple, pour ne citer que ceux-là, eh bon, n'ont pas eu leur équivalent dans la pensée théologique islamique ou philosophique islamique sur cette période-là. Et donc, il est temps d'entreprendre, et les sentiers sont titanesques au niveau de la pensée, une refondation de la pensée qui dépasse le simple aggiornamento, le simple toilettage, le simple bricolage, le simple rafistolage, la simple réformette. On entend parler de telle et telle réforme. C'est une véritable refondation de la pensée théologique islamique et qui dépasse uniquement théologique. Et j'ai envie d'ajouter qu'il est temps de sortir de la raison religieuse. Il est temps d'en finir avec la pensée magique. L'intervention des pouvoirs célestes, ici-bas. Je distingue les questions de foi et des questions de superstition, d'aliénation des esprits, de christianisation, de normativité obèse. Il touche. D'être serein pour les croyants quant à l'au-delà. C'est-à-dire que ces questions du salut ne doivent pas les inhiber à entreprendre, à s'ouvrir au refus. C'est-à-dire que la prof dans ce monde ici-bas, ce n'est pas tu fais telle chose, tu vas jouir des délices paradisaires, tu fais telle autre chose, tu vas périr par le feu de l'enfer. Sortir de cette vision de ce signe ici, c'est ce signe ici. Il y a beaucoup plus important que ça. Et pour les croyants, les croyants, les hommes et les femmes de foi, il y a aussi l'amour de Dieu, la tendresse infinie du Seigneur. Il y a aussi ces approches-là que les imams, les hiérarques, les responsables, les théologiens doivent enseigner d'abord aux fidèles avant de commencer à culpabiliser les consciences. Et parmi ces chantiers titanesques, il y en a trois. Il y a celui de la liberté de conscience, du pluralisme, de la désintrication de la politique avec la religion, de la séparation, justement, des questions religieuses avec les questions politiques. Le deuxième chantier, tout aussi important, est celui de l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà les orientations spirituelles et métaphysiques. C'est intrinsèquement qu'il y a la dignité humaine, et la dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière. Et troisième chantier tout aussi important est celui de la désacralisation de la violence. En finir avec une vision de la violence qui pourrait être commanditée par le divin. C'est la transcendance qui nous dit qu'il faut agir de telle ou telle sorte. Donc on ne peut pas imaginer qu'au XXIe siècle, après en avoir mangé une décadémie, il y ait quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par Dieu. C'est cette approche-là, cette idéologie du combat sacralisé, il faudrait en finir véritablement. Et d'une manière transversale à tout cela, on ne peut y arriver qu'avec l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'éducation, l'instruction, l'ouverture sur le monde, l'amour du beau, La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski, dans l'idiot, et donc l'esthétique, la musique, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, ce qui flatte les sens, ce qui élève l'âme humaine, ce qui polie les cœurs. Et il y a une vision programmatique de faire des citoyens, en l'occurrence des citoyens musulmans et musulmanes, bien un homme ou une femme ayant le souci aussi d'autrui, avec un engagement dans la cité. Et donc ce travail, que j'ai qualifié de titanesque, et toutes ces entreprises-là, sont le programme et le défi, et ce sont des enjeux pour la pensée théologique islamique. Et donc le premier de ces chantiers, j'ai dit que c'est celui de la liberté, et notamment la liberté de conscience. Et ce soir, c'est la liberté d'expression. Et je crois l'avoir dit ici aussi l'une des éditions précédentes, et j'emprunte le mot au vocabulaire médical, et notamment chez les ophtalmologistes, il paraît qu'un scotome, on appelle un scotome un point aveugle. Il y a une lésion du nerf optique qui fait qu'on ne voit pas, et donc, je le dis sous l'autorité des ophtalmologistes présents dans la salle, et donc, là aussi, le scotum de la pensée théologique islamique actuellement est celui de la liberté de conscience et de la liberté d'esprit. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la terreur, ou par l'abjection, ou par la violence, ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre. Et toutes les logorées, quelles qu'elles soient, pour justifier ce type d'entrave à la liberté, et notamment à la liberté de conscience, ne tiennent pas la route. Y compris disant, on a demandé à personne d'embrasser l'islam, et une fois qu'il a embrassé l'islam, ben il n'en sort pas, il aura le même châtiment que les déserteurs, ça ne tient pas la route. Alors revenons un peu au cercle. À titre personnel, je trouve que ce n'est pas opérant intellectuellement d'exiger des versets coraniques hors contexte. Parce que la méthode n'est pas bonne. On ne peut pas dénier aux radicaux, aux extrémistes, aux fondamentalistes, d'exiger tel ou tel verset coranique, tronqué d'ailleurs, et extrait hors contexte, et sans prévaloir, pour y connaître. Commettre en son nom irréparable et venir se battre aussi à coups de versets coraniques, mais en brandir d'autres qui vont dans le sens que nous souhaitons. Justice plus nombreux. La méthode n'est pas bonne, épistémologiquement, elle n'est pas acceptable. Parce qu'un verset coranique est en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit. En termes techniques, on parle d'une péricope. Une péricope est une unité textuelle. Et une unité textuelle relate ce que les théologiens appellent une scène herméneutique. Il y a une exégèse à faire, un commentaire, une explication de ce passage. Il faut prendre dans sa totalité. C'est le statut de la révélation qu'il faudrait prendre dans sa totalité, mais aussi le passage en tant que tel, mais pas uniquement inversé. Et donc, si j'ai me mettre à vous réciter des versets coraniques, je corrobore une méthode que je vais vous dénier tout à l'heure lors du débat, quand vous me dites si on a entendu un fou furieux, un hurluberlu ou un criminel se prévaloir du Coran, qu'est-ce que je vais vous dire? Là, il n'avait pas le droit d'extraire hors contexte un verset coranique, alors que moi je vais faire la même chose maintenant. Ben, après tout ce long détour, ben, je vais le faire, mais par avis méthodologique. C'est uniquement par, j'allais dire, visée pédagogique. Et je vais vous en citer quelques-uns. Toujours dans le domaine de la liberté de conscience. De la liberté. Après, on reviendra à la question de la liberté d'esprit. Premier verset qui me vient à l'esprit, surtout pas celui de 256 de la Sourate 2, « Nulle contrainte en la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur. » Nous le connaissons, il ne connaît que celui-là, mais
C'est curieux, on le brandit toujours dans les colloques interreligieux, mais dans la pratique, on ne voit pas en quoi il a été, et notamment en Arabie Saoudite ou ailleurs, nulle contrainte dans la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur. Sourate 2, verset 256. Ça, je ne dis pas qu'il faut l'oublier. Et curieusement, on l'a toujours brandi, mais il a été très peu pratiqué ou suivi. À titre personnel, je préfère d'autres. Je préfère le verset 29 de la Sourate 18 qui dit en substance « La vérité est main de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. » Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Je ne vais pas être contenteur ou penseur de quiconque de sa conscience. La vérité est main de son Seigneur, crois qui il veut. Il y a une traduction qui dit « Mais crois qui il veut. » Il y a un autre verset, ou deux qui se suivent comme ça, 104 à 106, de la Sourate 6, Sourate 6 du bétail et du troupeau. Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour lui-même, celui qui est aveugle l'est contre soi. Est-ce à quoi de les contraindre à devenir croyants? Nous ne savons pas désigner comme leur curateur. Verset 99 de la Sourate 10, de la Sourate de Jonas. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient fui. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? J'aime un autre verset, tout particulièrement c'est le verset 54 de la Sourate 5, la Sourate 10 de la table, de la table des services. Ô vous qui avez cru s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Il n'est pas dit qu'il faut l'offrir, il n'est pas dit qu'il faut le tuer, il n'est pas dit qu'il faut le décapiter, il n'est pas dit qu'il faut le mettre dans une cage et le brûler vif. Ô vous qui avez cru s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, et bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Du mystique, l'Église a imploré ce verset coranique. Étienne, font, essaye, attire, désire faire partie de ce peuple qui aime Dieu, qui se sent aimé de Dieu. Ça rentre en écho avec un autre verset qui ne parle pas de liberté, il parle, c'est le verset 30 de la Sourate 3, la Sourate de Ala Imran, la famille d'Imran. Dis-leur, si vous aimez Dieu, suivez-moi, il vous aimera et il vous pardonnera vos fautes. C'est une relation d'amour réciproque. Les théologiens auraient dit d'amour oblatif, un amour théologal, puissant, incandescent, sans recours. À la fois entre le Seigneur qui aime ses serviteurs, ses adorateurs, ses créatures, ses êtres humains et eux aussi. Bien, je continue, j'allais dire la panoplie, ou le piquant légion, on aurait pu passer jusqu'à demain matin, les papiers en revue, à en faire les commentaires et l'exégèse. Bien le verset, les deux versets qui se suivent, 21-22 de la Sourate 88, rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité concernant. Et dans une autre traduction, rappelle qu'il n'est là que pour rappeler qu'il n'a sur eux aucun pouvoir de petit. Et puis il y a toute une sourate parmi les petites sourates, une sourate étant un chapitre sans être un chapitre, à la fin du livre, à la fin du corpus coranique, elle-même parle de je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, etc. Donc si on veut aller s'appuyer sur la référence première des musulmans, qui est le Coran, il y a de quoi alimenter toute une réflexion de la liberté, toute une théologie de la liberté. Parce que, encore une fois, ces questions d'adhésion à une foi, à une vision du monde, à une croyance, ne peuvent pas s'imposer. Et c'est même un peu le contraire. Maintenant, la liberté
d'expression. Là, je parlais de liberté de croyance ou de liberté de conscience. Maintenant, la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat après les caricatures. D'abord, ceux qui ont cru bon de venger l'honneur du prophète parce qu'il aurait été ou il avait été diffamé ou insulté, c'est curieux, ils veulent être plus royalistes que le roi. Lui-même a été battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, des éléments subtils sur la tête, lapidés à coups de pierre. Et il ne disait rien d'autre. Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Reprenons la même parole que notre Seigneur Jésus connaissant la passion. Et je ne vois pas pourquoi, 15 siècles plus tard, on se sent offusqué et puis on voudrait le venger. Si au moins on connaissait sa vie, ses attitudes, son comportement, devant l'adversité, on n'aurait pas agi de la sorte. Deuxième idée, c'est que les musulmans lettrés ont appris par cœur la Divine Comédie de Dante. Il se trouve que la Divine Comédie de Dante place le prophète de l'islam dans le pandémonium, le lieu de tous les démons. Ça ne les a pas heurtés outre mesure. Au contraire, ils ont vu plutôt les entrains, ce qu'on appelle le pastiche ou le plagiat de la Divine Comédie, de l'épître du pardon, l'épître au pardon de Mahdi, qui lui est mort en 1973-1057. Mahdi a composé entre autres œuvres l'Épître au pardon, et la thèse n'est pas de moi, elle est de Miguel Atini Palacios, le madrilène, qui en 1919 a provoqué un tollé général, arguant du fait que la Divine Comédie de Dante n'est qu'un plagiat ou un pastiche de la fameuse Lettre au pardon, ou l'Épître au pardon de Al-Mahdi. Et la Divine Comédie de Dante a été illustrée. Et il y a eu aussi des toiles, des œuvres. Personne n'a été, parmi les musulmans qui allaient les voir, vous voyez, non, ne sont allés ni dégrader la dite œuvre, ni s'offusquer outre mesure de ce qui a été. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que lorsqu'on est dans un moment de repli, de crispation, un rien fait peur, un rien au fond, un rien, on n'est plus sûr de soi. Or, ce qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut accepter l'injure, mais avant tout, la liberté doit être fondamentale, elle a comme corollaire la responsabilité. Si celui qui use de sa liberté ne veut pas être responsable, il répondra de ses actes devant les tribunaux, à supposer que l'on ne soit pas débouté à chaque fois. Parce que le plus important, c'est de se sentir soi-même rasséréné. Et j'avais pris cet exemple une fois, un de mes corps légionnaires n'était pas heureux de l'exemple que j'ai choisi. Les gazelles reprennent, je cours le risque encore ce soir. Et la bonne patineuse artistique, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale. Parce qu'elle réussit le triple axel, elle a une bonne colonne vertébrale. Si elle avait un lumbago, si elle avait mal au dos, elle n'irait pas. Et bien là aussi, les statistiques ont dit, celui qui est sûr de soi, celui qui connaît son patrimoine, celui qui connaît sa généalogie, celui qui connaît son histoire, celui qui est ouvert sur le monde, celui qui est bien assis, pour une fois qu'il est debout, qui a une bonne colonne vertébrale, il ne sera pas ébranlé. Ni par l'injure, ni par l'insulte, ni par la caricature, ni par quoi que ce soit. Au contraire, il y a d'autres méthodes, à supposer qu'il faille entrer en belligérance ou en conflit, il y a d'autres méthodes de réagir, et qui sont
des méthodes d'intelligence, des méthodes de magnanimité. Je vais me prendre deux exemples, celui de Saladin et celui de l'émir, l'émir Abdelkader. Saladin reprend Jérusalem en 1187 pour la bataille de Hattin et il dit pardonnez, car pardonner ça fait convertir les cœurs. Et c'est pour ça que Saladin est resté dans la cité générale comme un homme, un homme longanime, magnanime, un esprit chevaleresque. Plus tard, l'émir Abdelkader, en 1860, va intercéder pour des maronites, pour des chrétiens à Damas, pour les sauver d'un pogrom véritable. Et voilà que Monseigneur Pavi, successeur de Monseigneur Dupuis, évêque d'Alger, il écrit une lettre dans laquelle il lui dit « Et alors, tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens ?» À ce moment-là, la citoyenneté était confessionnelle, donc les Français, les chrétiens, c'était pareil. « Et tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens ?» Et la réponse de l'émir était « Aucune raison, je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à un aphorisme prophétique qui dit « Les hommes sont enfants de Dieu et le plus aimé parmi eux auprès de Dieu est le plus aimant et le plus utile à ses enfants. » Ni haine, ni ressentiment, bien. Et puis pas... Les uns séparés des autres, ce qui se passe à Damas, ce n'est pas ce qui s'est passé à Massara ou en Algérie ou ailleurs. Donc voilà. Préférer finir là sur notre situation française. On reconnaît la grandeur d'une nation et le génie d'un peuple. Quand au moment de l'adversité, et pour nous c'était véritablement un pays, bien on maintient la cohésion. On maintient la cohésion. Et ça n'empêche pas que nous parlions, que nous discutions, que nous affirmions aussi des valeurs communes, au-delà du vivre ensemble. Parce que les linguistes disent, il y a des mots valises, il y a des mots hochés, et le vivre ensemble devient un mot hoché, qu'on brandit comme ça, et on ne sait pas véritablement à quoi ça renvoie, parce que nous sommes ensemble. Et sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans la frilosité, dans le repli, dans la crispation, où sommes-nous ensemble, mais dans la symbiose, l'osmose, la synergie, une volonté commune de construire un avenir commun. Et bien, c'est pour ça que je préfère pour ma part l'expression « faire société », consolider les bases d'une nation commune. Une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Les enjeux sont considérables pour la pensée théologique islamique, encore une fois. J'aime à rappeler cette triade de critiques, notamment de ce Mohamed Bakou, il n'est pas assez de lui. Lui-même, il a emprunté de son maître. Donc, il est transgressé, déplacé, dépassé. Trois verbes à l'infinitif. Transgressé des tabous, il y en a beaucoup. Sortir des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques, libérer l'esprit de sa prison. À tout point de vue, d'ailleurs. Surtout se rendre compte que, à propos de ces questions religieuses, j'ai dit tout à l'heure, la normativité est devenue obèse, et qu'on était saturé de sacré. Le sacré grossit, irradie partout, il y en a partout, et on n'ose plus rien toucher. Roger Caillois dit à juste raison, le sacré, c'est ce dont on ose s'approcher sans qu'il y ait une fulgurance. Ben, dans certains cas, il faut aller voir, il faut aller comprendre. Et c'est ça, déplacer.
déplacer les études du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens. Nous ne pouvons le faire et le réussir qu'avec la batterie des disciplines que sont l'herméneutique, l'exégèse, la médiologie, la sémiotique, la philosophie, l'historiographie, la philologie, la paléographie. Vous voyez bien le nombre de disciplines des SHS, les sciences de l'homme et de la société, des sciences humaines, qu'il faut mettre au secours d'une compréhension intelligente et du patrimoine religieux et aussi de ce que c'est l'homme, de l'anthropologie du fait religieux, etc. Et dépasser tout cela, dépasser surtout les systèmes juridiques dont les fondements théologiques sont de plus en plus ébranlés, qui ne tiennent plus, et laisser place, j'ai envie de dire, dépasser notre raison résonante, duale, avec un Pierre Schmitt, qui ne nous avait pas prémunis du bolchevisme, du terrorisme, du nazisme, etc. Peut-être qu'il est temps maintenant d'aller vers une nouvelle rationalité, vers une nouvelle raison émergente, qui tiennent compte et qui allient à la fois les ressources inventives de la technoscience, de la nanotechnologie, de la révolution numérique, mais aussi l'invariant besoin de transcendance, la foi qui est singulière de spiritualité, de qu'est-ce que c'est qu'être humain au XXIe siècle, etc. Nous avons besoin, qui que nous soyons, d'un investissement intellectuel, philosophique, théologique pour tout ça, tant au niveau de la quotidienneté au niveau de la réflexion, et ça ne peut advenir qu'avec la liberté. La liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté tout court, et que ceux qui sont heurtés par l'exercice de la liberté d'autrui usent ou utilisent des moyens civilisés pour le faire savoir, et qu'ils réagissent par les ouvrages, par la prise de parole apaisée. J'aime l'exemple des maisons de la sagesse au pluriel, et notamment celle de Bagdad. Il y avait des controverses, ce qu'on appelait les controverses, elles-mêmes en fait de la disputatio des auteurs latins, et la disputatio elle-même de l'ancêtre de la soutenance de thèse. Bien, dans ces controverses, il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans. Bien, les juifs et les chrétiens disaient à leurs musulmans, ne nous prenez surtout pas votre Coran comme base de discussion. Nous ne le reconnaissons pas. Donc, que l'entendement entre nous, l'arbitre, c'est l'entendement humain. Et à ce moment-là, les musulmans acceptaient. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas prendre en auto-référence leur propre base scripturaire, leur propre base la propre référence à eux. Donc voilà ce dont nous avons besoin. Dernier point, et là c'est sûr que je vais m'arrêter, on est à 43 minutes et quelques secondes, c'est chose là qui limite les propos. J'ai dit qu'il y avait une régression depuis le 16e siècle peut-être, c'est toujours difficile de donner des dates. Mais il y a malheureusement une régression dans la régression. Je vous parle d'une anecdote. Et là, c'était au-delà de l'anecdote. Dans l'Égypte des années 30, plus exactement 1937, il y avait un ouvrage d'un certain Adel Ahmed Adam. Les Égyptiens ont toujours des noms en croix. Eh bien, il a composé un livre intitulé « Pourquoi je suis athée ?» Dites-moi, mes amis, que penseriez-vous qu'on ait fait de lui ? Là aussi, l'a-t-on bastonné, l'a-t-on décapité, l'a-t-on brûlé vif dans une case, l'a-t-on emprisonné ? Rien de tout cela. Au bout de quelques temps, il va y avoir un autre ouvrage intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Aujourd'hui, c'est inimaginable.
en Égypte.
Je n'ose même pas le dire en Iran ou en Arabie Saoudite.
Et si ça devait être le cas ici, chez nous, en France, avec le vrai nom de l'auteur, il aura de sérieux ennuis de la part de ses propres co-religionnaires.
Surtout si son nom trahirait, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, toutes ces choses-là, une sorte d'appartenance, parce que c'est curieux ces mots qui sont toujours piégés, à la communauté musulmane.
Bon. Donc à un moment donné, il faut, sans autoflagellation aucune, recevoir le coup de bambou que le bon bouddhiste reçoit de la part du lama quand la léthargie est longue au moment de la méditation, pour le faire réveiller de son temps de méditation, et un bon coup de bambou sur l'épaule ou sur la tête. Bien, là aussi, je n'ose pas imaginer autre chose que ce que nous subissons tous les jours ailleurs, et malheureusement dans notre pays, sur l'année 2015. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je répondrai à vos questions si tant est que je sache répondre. Sinon, nous resterons ensemble. Et en tout cas, merci pour votre écoute toujours respectueuse. Merci bien.